On va faire une lecture dans l'évangile de Luc. On va se lever pour faire cette lecture. Une lecture qu'on connaît bien, on la fait souvent à Noël. C'est dommage, on peut la faire tous les jours. Luc chapitre 1, verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, c'est pas beau ça, hein? C'est magnifique. Hein? L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Vous pouvez dire amen. Je le relis. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, juste avant, et au verset 23, c'est dit d'une façon différente. Mais c'est bien de le lire. Marc, chapitre 9, verset 23, dans une guérison extraordinaire, Jésus répond à un homme qui est très malheureux, qui est très malheureux. Au verset 22, Marc 9, 22, « Souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, c'est le papa qui parle, et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. » C'est bien cette honnêteté, voyez. « Viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible. » À celui qui croit, amen. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, là aussi, le Seigneur intervient par rapport à ceux qui ont du mal à rentrer dans le royaume de Dieu, à cause de la richesse en particulier, mais ce n'est pas que par rapport à la richesse. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus les regarda et leur dit, Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Notre Père et notre Dieu, nous croyons que tout ce qui est écrit dans ta parole, tu l'as écrit pour nous, pour notre instruction. Et si tu as dit à Marie que rien ne t'était impossible, nous le savons que ce que tu as dit à Marie, tu nous le dis à nous aussi. Que ton nom soit béni. Aide-nous, Seigneur, à ce que cette parole soit gravée dans notre cœur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais partager ma prédication en deux parties. La première, par rapport à cette parole de l'Écriture, que rien n'est impossible à Dieu. Combien de fois l'avez-vous lu, que rien n'était impossible à Dieu? Combien de fois avez-vous lu cette parole? Allez, est-ce que vous pouvez me le dire? Combien de fois avons-nous entendu, d'une façon ou d'une autre, cette promesse que l'ange a faite à Marie, qui s'interrogeait comment elle ferait pour avoir un fils sans être mariée à un homme? Et Dieu lui dit, au travers de l'ange Gabriel, rien n'est impossible à Dieu. Mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses. Vous l'avez remarqué, beaucoup de promesses. Et nous devrions être convaincus de ces paroles. Vous êtes convaincus que c'est vrai? Vous le croyez vraiment, que c'est une vérité? La question qu'il faut qu'on se pose est celle-ci. Cette promesse, cette parole de Dieu, elle est dans notre tête, vraiment là, enregistrée, mémorisée, ou elle est vraiment dans notre cœur? Ça fait toute la différence. On est capable d'apprendre, et moi je demande aux anciens d'apprendre des textes par cœur, d'apprendre des versets par cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une richesse, et le Saint-Esprit peut nous les rappeler, c'est un confort. Cette semaine, j'ai fait un séminaire, je vous en rappellerai peut-être tout à l'heure, j'ai fait un séminaire dans une église à Vie et Lumière, et on m'a demandé une réunion pour les anciens, et ils m'ont posé des questions, et c'est vrai que c'est une grâce de savoir où se trouvent les réponses. Mais c'est bien de l'avoir dans la tête, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça soit dans le cœur. On peut apprendre des textes par cœur. Est-ce qu'on peut faire apprendre des textes par cœur à des païens? Est-ce qu'un païen peut apprendre ce texte par cœur? Est-ce qu'on peut attraper un pêcheur et lui dire, écoute, pour dimanche prochain, il te faut répéter sur l'estrade Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que le gars, il peut venir la semaine prochaine, là, on lui dit, voilà, est-ce que vous avez appris le verset? Le gars, il ne croit pas en Dieu, il peut l'apprendre par cœur. Qu'est-ce que ça changera dans sa vie? Rien. Mais par contre, il le sait par cœur. Il aura passé la semaine à l'apprendre, Luc 1, 37, paf, rien n'est impossible à Dieu. En vérité, ça ne changera rien. Mais les paroles de Dieu, elles sont là. Vous le savez que tout est utile. La parole de Dieu, elle a été inspirée. C'est utile, c'est écrit. La parole est utile pour convaincre, enseigner, etc. Si cette parole, elle est dans mon cœur, elle va provoquer quelque chose. Elle va provoquer de l'assurance. Elle va provoquer la paix. Est-ce que ça ne donne pas la paix quand même, si régulièrement le Saint-Esprit nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu? Quand vous allez prier, vous allez avoir de l'assurance. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont aucune assurance. Il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas, ils doutent. Alors ils ne savent pas si Dieu entend leur prière. Écoutez-moi, Dieu entend tout. Vous le savez? Dieu entend tout. Il est tout puissant. Alors, tout est possible. Mais imaginons un problème. Pensez au dernier problème qui vous a fait de la peine. Ça a dû arriver, non? Est-ce qu'il y a eu hier, ce matin, avant-hier, quelque chose qui vous a affligé? Est-ce que ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Des fois, dans une semaine, combien on peut avoir de fardeaux? Allez, combien? 5? Qui dit mieux? Un par jour? S'il n'y en a qu'un par jour, c'est très bien. Mais avouez que des fois, il y en a des problèmes. Et ça peut peser les problèmes. Et Jésus l'a tellement bien dit qu'il a dit à chaque jour, suffit sa peine. On peut avoir des fardeaux, c'est tout à fait normal. Mais si nous y juxtaposons cette parole de l'Écriture, que rien n'est impossible à Dieu, mais croyez-moi, ça va changer notre façon de prier. Et Dieu veut que nous ayons de l'assurance. Dieu veut que nous ayons confiance. Dieu veut que nous lisions les paroles de l'Écriture et que cela nous donne de l'assurance. Mes frères et sœurs, c'est écrit, n'abandonnez pas votre assurance. Je sais qu'on a tous des hauts et des bas. Je sais que la vie est difficile. Mais nous avons un Dieu puissant. Il est tout puissant. Et s'il a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu, et si c'est consigné dans la Bible, c'est que nous en avions besoin, nous aussi. Alors, vous avez lu la Bible, vous la lisez la Bible, vous aimez lire la Bible? Quand on aime lire la Bible, moi cette semaine je l'ai lu encore une fois, plusieurs fois, et j'étais émerveilleux de voir tout ce que Dieu est capable de faire. Pourquoi il dit ces choses? Il dit ces choses pour faire de nous de véritables chrétiens. C'est quoi un véritable chrétien? C'est un pentecôtiste. Vous savez, aujourd'hui on compare les gens. Moi j'étais dans des séminaires, ça m'a affligé. Vous êtes de quelle dénomination? Jeune homme, vous êtes... Ah, vous êtes pentecôtiste? Ah, c'est bien. Et vous, jeune homme? Ah, vous êtes baptiste? C'est bien. Mes frères, c'est ridicule. C'est ridicule. Le problème, il n'est pas dans l'appartenance à une dénomination. Le problème, il est-ce que je crois ce que Dieu a dit? Dieu, il ne recherche pas des baptistes ou des pentecôtistes. La Bible dit que Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Des gens vraiment qui croient ce qui est écrit. Seigneur, tu l'as dit, c'est sérieux. Mais de toute façon, cette assurance, cette confiance, cette paix, cette joie, je parle d'une satisfaction intérieure, je ne parle pas d'une joie éphémère, je parle d'une joie spirituelle. Parce que c'est quand même un fruit de l'esprit, la joie. Et ça produit véritablement de l'assurance. Quand, voyez, quand Jésus enseigne sur le Notre Père, des millions de gens récitent le Notre Père. Oui ou non? Toutes dénominations confondues. On dit qu'il y a 1,5 milliard de chrétiens sur la terre. Donc il y a peut-être 1 milliard, ça fait du monde, 500 millions de croyants, je ne dis pas qu'ils sont convertis, mais de croyants qui prient ou qui récitent le Notre Père. Le Notre Père, Jésus l'a terminé avec cette parole, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dieu a voulu que lorsque nous prions, nous terminions nos prières par de la louange. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir qu'à Dieu appartient le règne. C'est la vérité. Vous le croyez? De toute façon, si vous ne le croyez pas, ça ne change rien. En vérité, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, ça ne change rien. Dieu est tout puissant. Ça change par rapport à vos prières. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Mes frères et sœurs, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ça ne change rien. Enfin, ça ne change rien à la vérité. Parce que la vérité, elle est immuable. Et si Dieu vous dit, nous dit, que c'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles, pas dans les siècles où ça allait bien, ou dans les siècles où ça allait mal. En France, il y a eu toutes sortes de siècles, rien qu'en France. Il y a eu les siècles d'abondance, il y a eu des siècles de disette, il y a eu des siècles en France où il y a eu la peste. Oui, on en parle, on l'a appris à l'école. Dieu régnait. Nous, ça nous dépasse peut-être. Dieu règne au siècle des siècles. Il est le maître du temps. Il est le maître de l'histoire, de l'univers, du visible, de l'invisible, mes frères et sœurs. Et il faut comprendre que ces choses ont été écrites pour nous donner de l'assurance. Le premier miracle qu'a fait Jésus, vous vous rappelez le premier miracle? Qu'est-ce qu'il a fait, le premier miracle? Il a changé l'eau en vin. Est-ce que c'est bien? C'est bien ou c'est pas bien? Bien sûr que c'est bien. Combien de temps il faut pour faire un bon vin? Faire un bon vin, il faut 20 ans. 20 ans pour faire un bon vin. C'est vrai. Mais Dieu, en une seconde, il peut changer l'eau en vin. Gloire à Dieu. Et là, ce n'est pas une question de bon vin. C'est que Dieu, en un instant, il peut changer le mal en bien, le fade, l'insipide en quelque chose qui a de la saveur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui n'aime pas le vin, il peut dire, mais ça ne sert à rien, c'est ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, ça sert parce que Jésus a fait son premier miracle à Cana, chez un couple qui était dans le désarroi parce qu'il n'y avait plus de vin. Et le Seigneur a fait un miracle. On lui a présenté, il a donné un ordre. Et Marie, qui était là, sa maman qui était là, a fait la plus belle des prédications qui existent. Elle a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et ces serviteurs qui étaient là, à côté de Jésus, ils auraient entendu une parole, remplissez d'eau ces vases. Mes frères et sœurs, quand nos vases, puisque Dieu nous compare à des vases, nous les remplissons de l'eau de sa parole, Dieu est capable de faire un miracle. Mais vous le croyez? Mais c'est sûr qu'il faut que nos vies soient des vases purifiés, sanctifiés. Et lorsque la parole de Dieu vient dans nos corps, eh bien, elle peut apporter la bénédiction sur les autres. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une question de dire, tiens, tel vin est bon. Ça, c'est pas important. Vous comprenez bien que ce n'est pas important. Mais il faut comprendre les choses. Parce que si on veut que ce verset... Écoutez bien, mes frères et sœurs. Vous le connaissez dans la tête. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il est dans notre cœur? Car rien n'est impossible à Dieu. Les églises entières seraient transformées, les réunions de prière seraient transformées si de tout notre cœur, on croyait vraiment que rien n'est impossible à Dieu. Et on pourrait peut-être relire la parole de Dieu dans cet état d'esprit. On va lire 2 ou 3 textes. Et je voudrais vraiment que nous comprenions, dans les Lamentations de Jérémie, il y a des textes qui sont très forts dans la Bible, très 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 forts. Et ils sont là pour nous interpeller, pour nous arrêter, comme on le fait. Mais il faut le faire aussi d'une manière personnelle et pas lire à tort et à travers, n'importe comment. Dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, le Seigneur dit ceci, verset 37-38. Et on va lire le verset 39, parce que c'est un verset qui peut vous amener une grande bénédiction. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Vous y êtes, mes frères? Ce sont des versets que vous pouvez méditer régulièrement. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Oui, c'est une question, ça. Par contre, regardez ce qui est ajouté. Et ça, c'est important. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez tendance à vous plaindre du péché des autres. C'est vite fait. On a plus de difficultés à se plaindre de ses propres péchés. Eh bien, voyez, mes frères et sœurs, si nous voulons voir certaines choses, ne vous plaignez pas du péché des autres. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Plaignons-nous de nos péchés. Occupons-nous de nos péchés. C'est une grande bénédiction de s'occuper de soi-même et de réaliser vraiment. C'est comme ça qu'on comprend les choses. C'est comme ça que certaines promesses s'enracinent dans notre cœur. Vous savez, hier soir, quand j'ai fini mes prédications, je médite, je réfléchis. Et je pensais à la puissance de Dieu, puisqu'il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Vous vous rappelez comment Jonas a entendu Dieu, lui, c'est un pasteur. Et Dieu, si vous regardez sur les cartes, c'est intéressant de regarder les cartes. Il habitait en Galilée, et Dieu lui demande de partir à Ninive. D'accord? Donc lui, il part à l'est. Vous regarderez sur les cartes. Il part à Tyr, et de Tyr, à la place de partir au nord pour aller en Irak, dans l'actuel, pour aller à Mossoul actuel, à Ninive, lui, il prend un bateau, il descend à Jaffé. C'est loin, ça fait 400 kilomètres. Pour partir à Tarsis. Il fuyait. Et vous avez vu comment Dieu est intervenu. Vous avez vu comment... Vous le croyez, l'histoire de Jonas? Ou vous croyez que c'est une légende? Beaucoup d'églises enseignent que c'est une légende. Ça s'est véritablement passé. Et vous savez comment Jonas dormait au fond de la soute? Le pasteur pentecôtiste, enfin chrétien, dormait dans la soute pendant que les païens priaient sur le pont à méditer. Vous croyez que ça peut arriver, ça, que des chrétiens dorment pendant que les païens prient? Oui, ça peut arriver souvent. Qu'est-ce que Dieu fait? Bon, Dieu déclenche une tempête. Jonas finit par se réveiller et il dit, écoutez, la solution, je vais vous la donner, c'est ma faute, jetez-moi à la mer. Il est en pleine forme, jetez-moi à la mer, c'est moi qui attire sur vous cette grande colère. Ils le font, parce que vous voyez que le bateau va couler. Et qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu avait prévu la taille du poisson qu'il fallait? Ben oui, il n'a pas envoyé un petit poisson rouge, il a envoyé quand même le poisson qu'il fallait. Vous êtes d'accord avec moi? Mais écoutez bien, mes frères et sœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je suis en train de vous expliquer que quand on lit la Bible, il faut voir que Dieu est tout puissant. Mais ce qui m'est venu à l'esprit quand je méditais cette histoire, c'est que Jonas a été avalé par ce grand poisson. Pendant 3 jours, il est resté. Il s'est remis à prier, c'est bizarre. Il s'est remis à prier. Et ce que je crois que le Saint-Esprit m'a montré hier, c'est que le poisson... Il a vomi Jonas. Moi, je suis. C'est pas écrit dans la Bible. Mais je suis persuadé que le poisson a vomi Jonas le plus près de Ninive, du côté de Tyr. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous croyez que Dieu a dit, écoute, je vais lui donner une leçon, il va aller à Chypre? Est-ce que Dieu aurait pu faire vomir le poisson à Chypre? Pourquoi je vous dis ça? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mes frères et sœurs, si nous voulons vraiment que nos prières... Parce que le but, c'est ça, c'est mon deuxième point, ça c'est le premier point. C'est une vérité que j'expose. Mais le deuxième point, c'est le plus important, vous le comprenez bien. C'est par rapport à la vie de prière. Si nous voulons que nos prières soient ferventes, que nos prières soient passionnées, il faut absolument que nous soyons d'accord avec cette vérité. Rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez, frères et sœurs? Vous lirez Ézéchiel 37, mais vous lirez ce chapitre. Et s'il vous plaît, lisez-le. Toute la semaine, ne lisez que ce chapitre. Et regardez comment Dieu a agi le jour où Ézéchias a reçu une lettre d'un roi mauvais qui s'appelait Sanchérib, qui avait déjà détruit plusieurs nations. Et il envoie une lettre à Ézéchias. Il lui dit, écoute, roi Ézéchias, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas te faire manger. Vous le lirez, ne le cherchez pas. Ne le cherchez pas maintenant. Qu'est-ce que fait Ézéchias? Il lit la lettre, il est effrayé, il l'a lu. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Il est allé au temple. Il est allé au temple et il a dit, Seigneur, regarde. Il est dit qu'il a montré Seigneur. C'est dit ou c'est pas dit? Seigneur, regarde. Quand il finit, quand le Seigneur a fini de lire la lettre, qui devait certainement déjà connaître le contenu, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe chez Ézéchias. Et il lui a dit, écoute, je résume, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper, cet homme, il a méprisé mon nom, je vais m'occuper de lui. Et alors qu'ils étaient à côté, dans la vallée à côté, prêts à les attaquer le lendemain, un ange, pas trois, un ange dans la nuit a été envoyé par Dieu et il a tué 185 000 soldats armés jusqu'aux dents, sauf le roi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et il faut lire ces histoires, non pas en disant « Oh, c'est merveilleux », mais en comprenant que tout a été écrit pour notre instruction. Mais lisez-la, avec le cœur et demandez à Dieu qu'il vous montre. On peut le faire ça aussi, nous, dans notre chambre, dire « Seigneur, tu vois ce courrier qu'on m'a envoyé, tu vois cette parole qu'on m'a dite, je me confie en toi ». On peut tout mettre au pied du Seigneur. Mais vous le croyez, mes frères et sœurs, vous allez croire que j'insiste, que je me répète, que je vieillis, mais écoutez-moi bien. Est-ce que vous croyez vraiment dans votre cœur que rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Alors il faut le concilier avec l'obéissance. Et c'est là mon deuxième point. C'est absolument important que nous concilions cette affaire avec l'obéissance. Beaucoup de chrétiens, écoutez, ça c'est grave ce que je vais vous dire, mais ça a été installé, c'est la faute en partie au pasteur, ça j'en conviens, et c'est archi grave. C'est qu'on présente les promesses comme si on n'avait pas à y participer. Vous voyez, par exemple, je pense à cette promesse qu'on entend souvent dans les prédications. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Vous connaissez ce texte, Éphésiens 3, 20. Et il y a des pasteurs qui, voilà, vous pouvez rêver, et vos rêves vont s'accomplir. C'est ridicule. Mais c'est ridicule. Il ne faut pas s'étonner que beaucoup de chrétiens abandonnent Dieu, parce que quand leurs rêves ne sont pas accomplis, parce qu'ils ont rêvé n'importe quoi en plus, eh bien, ils abandonnent Dieu parce que Dieu n'a pas été fidèle. Mes frères et sœurs, c'est grave. Il faut concilier cette promesse à l'obéissance. Et j'étais à la mission à Perpignan, j'étais en train de prier. Je priais dans ma chambre. Et je pensais à cette exhortation, je pensais à cette parole, je savais pas si c'était pour moi, si c'était pour vous, je priais. Et écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, parce que nous avons un grand Dieu qui veut bénir. J'étais en train de prier, et je pensais aux hommes et aux femmes que Dieu a utilisés, tout simplement parce qu'ils avaient envie d'obéir. Je me souviens quand on est parti en Polynésie, ma femme des fois me dit « Mais pourquoi nous? Pourquoi on part missionnaire en Polynésie ?» Et un jour que je n'étais pas là, il y avait un pasteur de passage qui ne savait pas qu'on partait en Polynésie. Et écoutez bien, mais c'est simple en plus. Et ma femme dans son cœur priait. Et puis tout d'un coup le pasteur dit « Mais il faut que je vous raconte une histoire. » Et c'était Dieu qui allait répondre à ma femme. À toutes les questions qu'elle posait en direct. Et la dernière question, d'ailleurs, ça serait bien qu'un jour elle vous le raconte. La dernière question, c'était « Mais pourquoi tu nous envoies en Polynésie ?» Et le pasteur qui prêchait disait « Oui, au fait, toi qui te demandes pourquoi Dieu t'envoie faire ce grand voyage, eh bien parce que Dieu savait que tu obéirais. » Vous savez, nous on est compliqués, on cherche à savoir. Mais l'obéissance, mes frères et sœurs, vous l'avez entendu le don, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et cette semaine, écoutez bien parce que je sais que ça vient de Dieu, j'étais en train de prier, je priais. Et je pensais à Shamgar. Vous connaissez Shamgar? Shamgar, vous connaissez ce juge en Israël? Bien, lisons-le. Regardez, comment c'est possible cette histoire? Bon, je sais pas si tout le monde y croit. Alors, Shamgar, c'est où ça? C'est au début, non? Ouais. Juge 3, verset 31. Regardez. C'est des choses, je pense que les gens ne réalisent pas ce qui s'est vraiment passé. Regardez bien les hommes que Dieu a utilisés. Juge, chapitre 3, verset 31, donc c'est dans la Bible. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anas. Regardez bien.
Non, mais franchement, il faut le voir pour le croire.
Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un char de guerre. Non, pardon. Avec un aiguillon à bœuf. Vous savez ce que c'est un aiguillon à bœuf? Vous en avez... Oui. Est-ce que les jeunes savent ce que c'est? Non. Un aiguillon à bœuf, c'est pas compliqué. C'est un grand bâton de 2 mètres, 2,50 mètres, avec une pointe enchâssée au bout. Pourquoi faire? Parce que lorsqu'on est sur une charrette et que les bœufs ont tendance à se prélasser, un petit pic dans les cuisses, et tout d'un coup, le char recommence. Voilà. Un aiguillon à bœuf, c'est une branche avec une pointe. Non, mais sérieusement, soyons sérieux. Il a tué 600 Philistins avec une branche. Est-ce qu'une branche avec une pointe, est-ce que c'est une arme? Non. Mais lui était en train d'obéir. Est-ce que vous comprenez? Et vous pourriez prendre dans la Bible tous ces cas où on voit des hommes ou des femmes. Je pense à Yaël. Yaël, c'est la femme d'un chef d'Israël. Quand, comment il s'appelle? C'est un peu plus, c'est juste après, non? C'est pas après? Oui. C'est juste après. Yaël, c'est une femme, c'est la femme d'un chef, qui voit arriver dans sa tente le chef de l'armée des ennemis, Sisera, un homme méchant d'une cruauté pas possible. Il entre, quoique cette femme, son mari avait fait une espèce de deal avec... c'était pas lié. Bon, mais elle, quand elle voit arriver Sisera, écoutez bien, c'est l'ennemi juré d'Israël. Il est épuisé, il n'en peut plus. Et je peux rentrer dans la tente, cache-moi s'il te plaît pour me cacher des ennemis. Elle le cache. On le lit, c'est juste après. Verset 19, 4-19. Il dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un, tu répondras non. Yaël, une simple femme, à l'époque, c'était inouï ce qu'elle a fait. Yaël, d'ailleurs, souvent il en est parlé après, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Vous lisez la suite, quand vous voyez Déborah, comment elle va composer un cantique qui parle de cette femme. Elle a tué l'ennemi d'Israël. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle était en train d'obéir. Il fallait le faire ce qu'elle a fait, parce que là, c'est facile à lire. Et en priant, je reviens à mon sujet de prière. Quand j'étais en train de prier, je ne sais plus quand c'était, mercredi matin, je priais. Je priais et tout d'un coup, dans mon esprit, j'ai pensé à Marie, puisque je pensais à ce verset, rien n'est impossible à Dieu. Marie, on ne sait pas grand-chose de Marie. D'accord? On ne sait pas grand-chose. Elle a dit des choses très très importantes, mais on ne sait pas grand-chose de cette jeune fille qui devait avoir 18, 20 ans. Et qui a été choisie par Dieu. Vous croyez que c'est Dieu qui a choisi Marie? Bien sûr. Dieu choisit... Écoutez bien mes frères et sœurs. Parce qu'il est impossible de concilier, rien n'est impossible à Dieu, à ce que je vais vous dire. Marie... À 18 ans, 20 ans, elle habitait où? Elle habitait où? À Toulouse? Elle habitait où? En Galilée. À Nazareth. On le dit bien, Jésus de Nazareth. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Elle habite en Galilée. Mais le prophète Michée avait prophétisé que le Sauveur naîtrait où? À Bethléem, 161 kilomètres plus bas. Mettez la carte, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, écoutez bien, parce qu'on ne peut pas affirmer des promesses si on ne comprend pas la participation de l'homme. Parce que quand vous voyez le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est merveilleux. Marie, dans sa maison, en train peut-être de préparer le repas, tout d'un coup, un ange qui vient, qui se fait voir. L'invisible qui se mêle avec le visible, l'humain avec le divin. C'est extraordinaire, le royaume des cieux. Oui ou non? Et regardez bien. Marie, elle a 18 ans. Elle est enceinte, elle va accoucher dans 8 jours ou 10 jours. Il faut que Jésus naisse à Bethléem. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'était écrit, vous le lirez, c'est dans Michée au chapitre 6, je crois, « Et toi, et de toi, Bethléem naîtra, etc. » Bon, Jésus devait naître à Bethléem. Vous voyez la carte là? Regardez bien, Nazareth, c'est en Galilée. Il fallait, mais vous allez comprendre, parce que c'est impossible, mes frères et sœurs, c'est impossible de vivre certaines choses si on n'obéit pas. Et je vous assure, j'étais en train de prier, Dieu m'a montré pourquoi il a choisi Marie. Bon, pour que Jésus naisse à Bethléem, il fallait qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met dans le cœur de César Auguste, l'empereur à Rome. Vous y êtes? Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que Dieu dit? On va le lire. Mais je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut relire la Bible. Beaucoup trop de chrétiens sont là dans le découragement. Oui, il y a des chrétiens. Combien abandonnent Dieu? C'est pas étonnant. Regardez, on a lu Luc, chapitre 1er. Regardez Luc, chapitre 2. C'est important, on va voir d'autres images. Hein, mais Luc, chapitre 2. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on lit vraiment. Vous y êtes? Luc, chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Vous êtes d'accord? Mais qui a mis dans le cœur de cet empereur, à Rome, de faire un recensement de toute la terre, pile poil à ce moment? Qui a inspiré, pourtant c'était pas un tendre, César Auguste? Qui a fait ça? Qui? Mais c'est Dieu. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu inspire César Auguste, qui lui est à Rome, et il ordonne un recensement de toute la terre. Pourquoi il a fait ça? C'est le hasard. Non, parce qu'il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que je vous assure que si nous ne voyons pas ce que nous voudrions voir, c'est parce que nous n'obéissons pas. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Joseph a donc reçu le mail. Il lit que... Non, le courrier. Il reçoit son courrier. Il faut qu'on aille se faire recenser dans notre ville de naissance. Allez, Marie, allez, tu mets de l'essence dans la Twingo et on s'en va. Alors, je vous ai fait rire, mais vous n'allez pas rire. Je vais vous poser une question et vous allez me répondre. Vous allez répondre à Dieu ou à vous-même. Aujourd'hui, répondez honnêtement. On est devant Dieu, on veut aller de l'avant. Je vous pose une question. On va prendre 100 jeunes filles aujourd'hui, en 2016, qui sont enceintes à 8 jours ou 10 jours d'accoucher, à qui on dit « il te faut aller à Dodane, à Bethléem, avec moi, il faut qu'on y aille, parce que le gouvernement l'a exigé ». Combien de jeunes filles aujourd'hui, à 8 jours d'accoucher, feraient 160 km à Dodane pour aller se faire inscrire? Sincèrement, je me pose la question. Voilà pourquoi Dieu a choisi Marie. Et tu peux mettre quelques photos? Parce que moi, franchement, ça me passionne, ces choses. Regardez. Ça, c'est des routes qui vont de Nazareth à Bethléem. J'en ai fait mettre quelques-unes. Voilà, c'est sur ces chemins comme ça que Jésus et Marie... Vous y voyez? Vous voyez? C'est des chemins comme ça, dans le désert, dans les pâturages, dans les bois. Vous voyez? C'est des chemins comme ça. 161 km. Voilà, ça va mieux. Voilà, vous voyez? Ça, c'est en Galilée, qui descend vers Jérusalem. C'est sur Internet. Regardez, c'est belle cette photo. Sincèrement. Non? Vous voyez Marie avec son gros ventre? Moi, si j'avais fait la peinture... J'aurais mis plein d'anges autour. Vous croyez que les anges la protégeaient? Ouais. Merci. 161 kilomètres. Marie, elle n'a pas été choisie au pifomètre. Marie, elle a été choisie parce qu'elle obéirait. Shamgar, il a été choisi parce qu'il obéirait avec une arme qui n'en était pas une. Samson, quand il a pris une mâchoire d'âne. Parce que Samson, c'est pas le meilleur, c'est clair. Mais quand même, à des moments, il a vraiment obéi. Jonas, c'était pas le meilleur pasteur. Mais quand même, il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi on peut sursoir. Mais mes frères et sœurs, oui, rien n'est impossible à Dieu. Mais vous rendez compte si Marie avait dit, non mais attends, moi je fais une dérogation. Tu fais un courrier comme qu'on ira, après on verra, hein. C'est pas grave. Recensement, c'est pas compliqué. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir cette promesse s'accomplir, écoutez bien, écoutons bien, il faut obéir. Il y a des gens pour un oui, pour un non, ils n'obéissent pas. Et moi je le crois vraiment, que le Saint-Esprit l'est donné à ceux qui obéissent. Vous le croyez? Et quand on croit ces choses, quand on prend le temps de réfléchir, moi je vous assure, je me suis posé la question, pourquoi tu as choisi Marie? Bon, je sais bien que Dieu est souverain, mais Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça. Alors après, j'ai cherché des photos parce que c'est beau de voir certaines images qui nous font comprendre ce qui s'est passé. 161 kilomètres, c'est pas rien. Mais mes frères et sœurs, quand on obéit, on a de l'assurance. On sait quand on obéit que Dieu peut pardonner. Vous croyez que Dieu peut pardonner? Vous avez Marie qui est encore pécheur, qui se moque de Dieu. C'est peut-être un blasphémateur, il insulte Dieu. Vous croyez que Dieu peut le convaincre de pécher? Oui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Vous avez une fille qui est loin de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ce que tu vas me demander, Seigneur, je vais le faire. Ce que tu me demandes dans ta parole, je veux le faire. Parce que tu es un Dieu qui pardonne, parce que tu es un Dieu qui guérit, parce que tu es un Dieu qui délivre, parce que tu es un Dieu qui libère, parce que tu es un Dieu qui convainc de pécher. Seigneur, ce verset, il ne sera pas dans ma tête parce que le pasteur nous a encouragé à l'apprendre par cœur. Non, il sera dans mon cœur. Et quand je prierai avec ces versets qui sont plus beaux les uns que les autres, parce que vous pouvez en recenser quelques-uns, des versets qui nous montrent que Dieu est tout-puissant. Mais mes frères et sœurs, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de prédications, mais qui ne sont pas équilibrées. Et ça manque de la participation de l'homme. L'ange Gabriel, il vient dans la maison de Marie, mais c'est la cohésion des deux. C'est l'invisible et le visible qui se mêlent ensemble, le divin et l'humain. C'est merveilleux. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est merveilleux que pour faire son œuvre, Dieu utilise ses anges et nous, ses enfants. Vous ne trouvez pas ça merveilleux, mes frères et sœurs? Mais il faut que nous obéissions. Et c'est à chacun de nous de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si ces choses sont dans notre cœur, mais je vais me mettre à prier. Vous savez, j'étais faire une mission chez les gitans. Mais vous savez, il y a 3 mois, j'y étais, 4 mois, j'y étais. Et l'église était découragée. Et le pasteur m'a dit, vous pourriez faire une soirée sur la prière. Et moi, j'ai fait une soirée sur la prière. Comme là, si vous m'aviez demandé, faites-nous une exhortation sur « Rien n'est impossible à Dieu ». Depuis, les chrétiens, ils ont compris que la maison de Dieu devait être une maison de prière. Ça fait que les sœurs, elles viennent faire le ménage. Et puis après, elles se mettent dans une pièce et se mettent à prier. Les jeunes, après la réunion de jeunesse, à la place d'aller au McDo, et bien ils restent dans une salle pour prier. Et moi, quand je suis arrivé mardi à la réunion de prière, un mercredi soir, l'église était remplie. Remplie, une heure avant. Et je crois, mes frères et sœurs, que quand on obéit, Dieu y bénit. Et il m'a dit, monsieur Gouivre, il faut revenir parce qu'il y a plein de rétrogrades qui viennent. L'église est remplie de rétrogrades. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une question d'intelligence, d'instruction, c'est une question d'obéissance. Et ça, c'est entre nous et Dieu. Ce n'est pas à moi à vous dire, fais ceci, fais cela, tu devrais, il faudrait que. Tout ça, c'est l'homme. Et quand c'est l'homme, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Mais chacun d'entre nous, vous et moi, nous devrions dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous êtes d'accord? Où est ma place dans l'église? Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas aller le mardi soir à la réunion de prière, parce que je suis loin de l'église. Mais il prie de quelle heure à quelle heure déjà? De 7h30 à 8h30? Eh bien, avec ma femme, avec mes enfants, de 7h30 à 8h30. Eh bien, s'ils le font, on se mettra à genoux, on lira un texte et on priera ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? C'est ça qu'il faut que vous demandiez au Seigneur, que nous demandions, bien sûr. Parce que je peux vous dire que beaucoup de gens prient « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu », mais le « mon », il ne faudrait pas qu'ils le mettent, parce qu'il n'est pas vrai. Est-ce que nous pouvons dire ce matin « Oui, Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu me diriges, et je veux absolument, Seigneur, comprendre ce que tu veux pour moi ». Mes frères et sœurs, vous savez le diable, parce que bon, il y a d'un côté, il y a l'œuvre de Dieu, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'adversaire. Oui ou non? Il y a l'adversaire, ne le négligeons pas non plus. Et il fait tout. Vous le savez, Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Satan vous a réclamé pour vous cribler. On connaît ces textes, donc on est prévenu. On est prévenu du combat, on est prévenu des luttes, des tribulations. Et le diable, il fait tout pour nous décourager. J'exagère ? Le diable, il fait tout pour nous décourager, pour nous en prier, pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher d'aller à la réunion de prière. Si c'est Dieu qui vous le demande, faites-le. C'est pas moi qui vous le demande. Moi, je vous prêche la parole. Moi, je n'ai pas à vous exiger certaines choses. Je dois, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure à la Sainte-Seine, exiger, oui, de l'ordre. Si quelqu'un est dans le concubinage et qui prend la Sainte-Seine, vous devez me le dire. Vous cafardez pas si vous me dites, tiens, ce frère, il vit dans le concubinage, ou cette sœur. Non, c'est pas du cafardage, c'est de l'ordre dans l'Église. Mais après, c'est à chacun de nous de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire ? À quoi tu m'appelles ? Parce que je crois qu'on est heureux quand on fait ce que Dieu nous demande. Oui ou non ? Il faudrait vraiment être tordu pour dire, c'est dur ce que Dieu me demande. C'est pas possible. Ce que Dieu nous demande, ça peut que nous faire grâce et nous épanouir. Le diable, il va nous empêcher d'aller à la réunion de prière. Le diable, il va nous empêcher de mettre de la ferveur dans notre prière. La ferveur, je ne parle pas de décibels, mais que j'ai de l'assurance. Le diable, il veut qu'on prie comme les païens, il veut qu'on prie pour prier, ça tranquillise notre conscience. Mais ce n'est pas comme ça. C'est vrai que des prières peuvent être pleines de douceur, d'autres pleines de fermeté, etc. Mais mes frères et sœurs, le diable, il fera tout pour nous empêcher même de croire à nos prières. Mes frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Est-ce que vous le croyez ? Il est tout puissant. Et le diable, il essaie de vous voler. Ce n'est pas un voleur, le diable ? De voler votre assurance, de votre foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Le diable, il fait tout pour qu'on abandonne la foi. Le diable, il fait tout pour briser notre foyer. C'est important dans les couples de prier ensemble. Oui ou non ? Priez avec votre conjoint, s'il est chrétien. Ne forcez pas votre mari, s'il n'est pas chrétien, à prier avec lui. Alors là, ce n'est pas la peine. Mes frères et sœurs, il faut combattre le bon combat. Paul, est-ce qu'il combattait Paul ? Il combattait pour lui ? Qui c'est qui a dit non ? Est-ce qu'il combattait pour lui et est-ce qu'il combattait aussi pour les autres ? Il combattait surtout pour les autres. J'ai mis ce verset, « Je veux que vous sachiez, c'est Paul qui parle, combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux de Laodicée. » Il combattait, mais pourquoi ? Parce qu'il avait de l'assurance. Bien sûr que Satan fait tout pour nous empêcher de prier. La maison du Seigneur, ça doit être une maison de prière. Et mardi, je prêchais à l'étude sur l'adversité. On va le lire ce texte. On va le lire. Parce que quand même, c'est à partir de là qu'est née toute cette prédication d'ailleurs. Dans 1 Samuel, vous connaissez l'histoire de David et Goliath ? Qui ne connaît pas l'histoire de David et Goliath ? Hein ? Qui ne la connaît pas ? Tout le monde la connaît. Même les enfants qui ne sont pas chrétiens, même les païens connaissent. Cette histoire, elle est merveilleuse, non ? Hein ? Elle n'est pas merveilleuse ? Non ? Cette histoire, elle est merveilleuse. D'un côté, alors je vous présente la scène. J'aurais dû faire des photos aussi parce que j'ai vu hier sur Internet, j'ai tapé sur Google Images, David et Goliath. Il y a plein de trucs, c'est super. Bon, d'un côté, les Philistins, armés jusqu'aux dents. Les ennemis d'Israël, en Israël. Armés jusqu'aux dents. Quand on voit comment était équipé Goliath, on a une idée de la façon dont ils étaient armés. Et dans ce contexte-là, le diable avait provoqué une guerre. Regardez comment il s'est arrangé pour préparer la guerre. 1 Samuel chapitre 13, verset 19. Regardez bien le contexte, mes frères et sœurs. Ça fait mal au cœur, vraiment. 1 Samuel chapitre 13, verset 19. Vous y êtes ? Le contexte de cette guerre. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Vous avez vu la préparation ? Combien l'ennemi il est organisé ? Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. J'ai souligné le verset 22. Regardez bien, mes frères et sœurs, ça fait mal au cœur. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. La préparation, le décor de la guerre, au verset 23, un poste de Philistins vient s'établir au passage de Micmash. Et voilà comment cette histoire va commencer. Les Philistins sont sûrs de leur coup. Pourquoi ? Ils ont réussi dans les années précédentes à désarmer le peuple d'Israël qui était une armée de guerre. Un peuple de guerre. Bon, c'est le contexte de la loi, tout ça, bon, n'y réfléchissez pas trop. Mais c'était leur devoir d'être armés. Et l'ennemi avait tout fait. Ça fait qu'ils se sont retrouvés sur le champ de bataille. Ils avaient des quoi ? Ils avaient peut-être des aiguillons à bœufs, tiens. Des bâtons, des gourdins, des fourches. Ça fait pitié, vraiment. Sans armes, sans rien. Rien. Et en face, le peuple ennemi, le peuple du diable, armé jusqu'aux dents. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Un jeune homme, là aussi de l'âge de Marie, un jeune homme reçoit un ordre de son père à 30 kilomètres de là. Il reçoit un ordre. Écoutez bien, c'est pour l'obéissance. Parce que le premier point, c'est même pas la peine que nous en reparlions si on n'obéit pas. Et nous voyons un jeune homme qui a souffert, beaucoup souffert, parce que quand Samuel est venu à la maison, personne n'a pensé à lui demander de venir. Le prophète Samuel venait à la maison et lui, ils l'ont laissé dans les champs. Et son père l'a méprisé, ses frères, n'en parlons pas, il y avait un conflit terrible et dû à l'orgueil entre les frères. Et voilà que papa, Isaïe, donc, demande à David, écoute, demain tu prends le fromage, le pain, 30 kilos. Ça faisait 30 kilos, il a dû prendre sur un dodane, mais qu'importe, ou un sac à dos, j'en sais rien. Et tu amènes ça à tes frères, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'a vécu David dans les mois qui ont suivi, laissez-moi vous dire que beaucoup de David auraient dit, écoute-moi bien. T'as vu le coup que tu m'as fait l'autre jour ? Alors t'envoies un serviteur, moi, écoute, ça suffit. Je vais pas parce que ça, c'était chaud entre les frères. Et même avec son père, écoute, papa, avec le coup que tu m'as fait quand Samuel est venu, moi, tu te débrouilles. C'est comme ça que les enfants parlent. Et si on n'obéit pas aux parents, je peux dire au pasteur qui prêche la parole, bien sûr. Si ce matin, Dieu vous parle d'obéissance, que c'est inspiré par Dieu, si c'est moi qui le dis, ne m'écoutez pas. Mais si ça vient de Dieu, qui vous montre une fois de plus que ce jeune homme, qui n'était qu'un jeune homme, qui n'était même pas un soldat, combien Dieu ? Oui, parce que rien n'est impossible à Dieu. Il a 17 ans, il a 20 ans, il s'en va en chemise et en short, il s'en va avec son âne et ses fromages et son pain, il obéit, il est en train d'obéir. Et quand il arrive, il voit un truc affreux. D'un côté de la montagne, il voit les Philistins armés jusqu'aux dents, et de l'autre, les Hébreux en train de trembler, parce que 40 jours, matin et soir, il n'a pas du tout combattu Goliath. Il a parlé. Il effrayait les gens par les paroles. Comme quoi on peut faire du mal avec les paroles, croyez-moi. Et David, il arrive sur le champ de bataille. Il arrive sur le champ. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il va voir ses frères. Ouais, c'est à cause de ton orgueil que tu es venu. Il passe à autre chose. Vous savez, il vaut mieux éviter les discussions inutiles. Et puis quelqu'un fait remonter au roi, tu sais pas, il y a un jeune homme, il va aller se battre contre le géant. Ah bon ? Faites-le venir. Ils le font venir. Et alors, David, bien sûr, lui, mais tu sais, moi, quand dans mon troupeau, il y avait une brebis qui était en danger, je la défendais. Lorsque le lion venait attaquer une brebis, eh bien, je l'arrachais de sa gueule. Lorsque l'ours venait et qu'il cherchait, je l'arrachais de sa gueule. Il communique à Saül, qui est découragé, il est en train de vivre des choses tout seul dans son pâturage. Mes frères et sœurs, David, il obéissait quand il était tout seul. David, quand il était... Pourquoi Dieu dit, j'ai choisi David, derrière les pâturages ? Parce que quand David voyait un loup arriver, ou un lion, même si les lions en Israël sont plus petits qu'en Afrique, il y allait quand même. Il y en a beaucoup qui auraient dit, oh, un mouton de plus, un mouton de moins, ça c'est pas grave. Seigneur, tu le sais, Seigneur. Oui ou non ? Et lui, il obéissait. Vous allez me dire, mais si je vous pose la question, mais franchement, c'est quoi le plus important ? La vie d'un mouton ou la vie de David ? Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui se jouait. Chaque fois que David défendait, parce que c'est pour un mouton, franchement, un mouton. Quand elles mettent bas les agneaux, le troupeau est double. Tu t'en vas avec 300 brebis, tu reviens avec 600. Alors qu'il y en ait 590 ou 600, écoute, Seigneur, écoute, protège-moi, surtout à moi. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est qui était le plus important, la vie de David ou la vie de brebis ? Alors la question, elle est ridicule, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Ce qui est important, c'est que notre vie ne vaut pas grand-chose si on n'est pas responsable. C'est ça que ça veut dire. et que nous devons être responsables. Seigneur, tu m'as confié, tiens, de m'occuper des enfants de l'école du dimanche. Mais je vais le faire et j'aurai la liste de tous ces gosses et je prierai tous les jours pour eux. Je suis responsable. Donc, Dieu a choisi Shamgar, on se demande comment. Dieu a choisi Yaël, on se demande comment. Elle a tué chez elle cet ennemi. Dieu a choisi des gens qui n'avaient pas d'armes. David, il arrive sur le champ de bataille. Il n'a rien, si ce n'est le fait qu'il obéit et qu'il est dans la volonté de Dieu, parce qu'il obéit. Et quand Saül essaie de le revêtir de son armure, parce que ça aussi, on veut faire. N'essayez pas de faire l'œuvre de Dieu avec les armures des autres. Soyez vous-même. Heureusement que David n'a pas accepté l'armure de Saül, parce qu'il se serait empêtré, mêlé les pinceaux, il se serait fait massacrer. Non, il a dit non, je ne peux pas la mettre, ça ne me va pas. Et il a pris Saint-Pierre, sa fronde, et vous savez comment il s'est occupé de Goliath. Pourquoi ? Parce qu'il obéissait. Mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Si vous voulez qu'on passe en revue tous les textes ? Ou si vous avez le temps. Mais mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu avec des gens qui obéissent. Alors, soyons sérieux. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes ? Demandez-lui. Peut-être que Dieu va vous amener à faire autre chose. Moi, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, il m'a fallu l'AVC pour que Dieu réoriente mon ministère par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mes frères et sœurs, je sais à quoi Dieu m'appelle aujourd'hui. J'ai payé cher pour le comprendre. Mais je ne regrette pas. Mais il vaut mieux se mettre à genoux dans sa chambre et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est pas à moi de vous dire, fais ci, fais ça. Chacun d'entre nous, à partir du moment où vous êtes entré dans la conversion, à partir du moment où vous êtes devenu un enfant de Dieu, Dieu doit vous montrer le chemin à suivre. Et si vous obéissez à votre patron, au gouvernement, quand je suis sur l'autoroute à 3h du matin, eh bien je roule à 120 ou 130. Et si on me dit qu'il n'y a pas de gendarmes jusqu'à Toulouse, est-ce que je peux accélérer ? Il n'y a pas de gendarmes. L'obéissance, c'est au gouvernement, c'est aux parents, à moins qu'ils vous demandent quelque chose qui ne soit pas biblique. Si votre père vous dit « va pas au culte », vous comprenez bien qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais mes frères et sœurs, Marie, quand 8 jours avant d'accoucher, elle a entendu qu'il fallait se faire recenser, elle a obéi. J'ai envie de dire un petit proverbe à bon entendeur. Salut. On va se recueillir, mes frères et sœurs. Et je voudrais, parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin de retrouver cette onction. Il y a des frères et sœurs parmi nous qui ont besoin de retrouver cette fraîcheur, qui ont besoin de retrouver cette obéissance joyeuse. Si l'obéissance est une corvée, demandez-lui pardon. Retrouvez cette ferveur d'obéir. Oh, la maison de prière. Oh, le ménage. Eh oui, le ménage, ça doit être une bénédiction. Tu m'appelles à ça, Seigneur. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se recueille et qu'on demande à Dieu de nous aider à avoir cette obéissance de cœur ? La Bible parle de l'obéissance de cœur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Terminons ce culte, mes frères et sœurs, en demandant à Dieu son aide et il nous aidera. Ce n'est pas possible qu'il ne nous aide pas. Ce n'est pas possible. Si on lui demande son aide, il va nous aider. C'est écrit. Nous le croyons, Seigneur, que rien ne t'est impossible. Oui, tu as donné ton Fils, par le biais de Marie, sans rien d'autre. Merci Seigneur. Comment tu es tout puissant. Comment tu agis dans la vie d'Ézéchias. Comment tu es capable de changer de loup en vin. Comment tu es capable d'incliner le cœur d'un empereur à des milliers de kilomètres pour qu'une seule de tes prophéties s'accomplisse. Oui Seigneur, nous le confessons devant le trône que rien ne t'est impossible. Et en même temps que nous sommes heureux de confesser cette promesse, nous sommes conscients que nous devons te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi, toutes les fois où nous avons trouvé des moyens, retors, compliqués pour justifier notre désobéissance. Seigneur, ensemble, nous te demandons pardon. Et nous te demandons ton aide et ton secours. Nous savons que tu es notre Père. Tu l'as dit dans ta parole que tu serais notre aide, qu'un secours qui ne nous manquerait jamais dans la détresse. Alors Seigneur, tous ensemble, nous te demandons de nous aider avoir cette obéissance joyeuse. Même s'il nous faut faire des kilomètres à Dodane, même s'il nous faut faire des kilomètres et des situations difficiles, donne-nous cette joie d'obéir, afin que nous vérifions jusqu'à ton retour que rien ne t'est impossible et que tout est possible à celui qui croit. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.